Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de JT Sport. Top départ pour 20 minutes de bonheur sportif. Même si la défaite française de handball d'hier soir nous a un peu miné le moral, toute l'équipe est en forme olympique pour revenir sur les grands moments du week-end. Au programme, Corentin et Hugo discuteront du match victorieux du TFC face à Strasbourg, puis Tristan reviendra sur nos actualités occitanes. Petite pause culture avec Benjamin qui nous raconte l'histoire d'Ernest Vallon. C'est ensuite Louis qui s'occupera de l'analyse de la finale de handball France-Danemark d'hier soir. S'ensuit le temps additionnel d'Emilien. Et pour finir, j'ai concocté un petit quiz pour l'équipe.
Le Stade toulousain est le nouveau champion de France.
La deuxième place pour Yoann Carré.
C'est pas demain, c'était pas hier, c'est maintenant.
Tout de suite, on commence avec Corentin et Hugo. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Le TFC vient de s'imposer à Strasbourg dimanche, signant une nouvelle victoire face à un concurrent direct, 12e à 11 points de la 17e place. Le TFC semble sauvé, mais est-ce qu'il peut prétendre à d'autres ambitions ?
C'est un peu la question qu'on se pose quand on suit le TFC cette année, c'est qu'on a quand même une équipe qui clairement joue au-dessus de ce qu'on pensait au début d'année. On pensait qu'ils allaient vraiment se battre pour le maintien dans les dernières places. Ils sont quand même assez larges, tu l'as dit, 12e de Ligue 1 pour l'instant, à 11 points d'avance du 17e, sur le 17e Strasbourg. Et si on regarde un peu plus haut, ils sont également à 11 points de retard sur la 5e place occupée par le Stade Rennais. Donc ça nous pousse un peu à nous poser la question, est-ce qu'au final le TFC peut jouer plus que le maintien ? Est-ce qu'il peut même potentiellement aller viser l'Europe ?
Alors pour moi, je pense qu'il faut d'abord assurer le maintien qui n'est pas du tout acquis pour l'instant. C'est vrai qu'à 11 points, ça laisse une belle marge. On rappelle qu'ils vont jouer 3 gros clubs après 3 de mercredi. Donc ça va être compliqué, il faut engranger des points contre les concurrents directs et on leur souhaite de se maintenir.
Parce que ce qui frappe quand on regarde un peu les résultats du TF, c'est presque cette facilité à battre les petits, ce qu'on appelait justement les concurrents directs. On peut penser à des victoires à Auxerre 5-0 ou encore face à Ajaccio 2-0 en Ligue 1. Mais il y a quand même ce gap qui n'arrive pas à être passé, justement gagner contre ces gros clubs dont tu parlais. On a vu des grosses défaites 6-1 à Marseille, des défaites à Lens 3-0. Pour essayer de jouer plus haut, effectivement, il faut essayer d'aller titiller ces équipes. Et pour l'instant, le TEF n'y arrive clairement pas.
Pour moi, je pense que c'est quand même un déficit d'effectifs. Alors, bien sûr, ils viennent de monter en Ligue 1, donc ils arrivent quand même à surnager. Mais je voudrais quand même revenir sur les arrivées. C'est vrai que je pense que Vincent Sierrot au milieu de terrain va faire du bien parce que nous sommes quand même sur un milieu de terrain qui bouge très peu avec Spierings, Van der Bomen et De Jagereux. Ensuite, Dalingad marche un peu sur l'eau en ce moment. L'arrivée de Saïd Amoulic va aussi faire du bien, à voir s'il confirme.
Parce que tu me disais tout à l'heure, Hugo, que ce qui te frappait, toi, c'est la faiblesse, notamment de la défense toulousaine.
Oui, c'est vrai que le match de Rouault, par exemple, ce week-end, a été un peu compliqué. Il fait clairement une passe décisive à Kevin Gamero. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Ouais, après, c'est sûr que là, il sort pas un très gros match à Strasbourg. Il y a cette boulette qui donne le premier but aux Strasbourgeois. Après, Rouault, c'est quand même un jeune qui se montre assez solide, je trouve, depuis le début de la saison. Moi, ce qui me fait peur plus défensivement, c'est ce qu'il y a derrière, parce que derrière Nicolas Hyssen et Rouault, il n'y a quand même pas grand monde. Les Moussa Diarra, tout ça en défense centrale, ça n'a quand même pas montré grand-chose. Donc, c'est un peu ce qui m'inquiète pour essayer d'aller viser plus haut et peut-être aller d'abord, effectivement, chercher ce maintien.
Je rebondis sur les latéraux gauche. En plus, Isiaga Sila est en instance de départ.
En plus.
Donc j'espère que Soiseau, la recrue, va faire du bien.
Mais en Coupe de France, le TFC est toujours qualifié. Est-ce qu'il peut viser loin dans cette compétition ?
Alors, c'est sûr qu'effectivement, le maintien, c'était clairement l'objectif prioritaire du TFC. Le coup de la Coupe de France, c'est peut-être pas ce qu'il cherchait à gagner au départ, mais vu le très bon début de saison du TEF, on se dit qu'ils peuvent essayer de jouer leurs cartes, qui sont assez larges quand même au niveau championnat. Et que c'est quand même la bonne façon d'essayer de faire un peu vibrer ses supporters. Ils jouent en plus une équipe de Reims en 8e de finale à la maison, au Stadium, dans à peu près une semaine et demie. Donc on se dit que même si les Rémois sont extrêmement forts en ce moment, on se dit qu'ils ont quand même leur chance. Donc, moi, je pense que c'est une compétition où ils devraient essayer de la jouer. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Hugo ?
Ben c'est vrai, tirage favorable, entre guillemets, Reims c'est dans leur corde. En plus, le PSG et l'OM s'affrontent. Donc, mais bon, je veux quand même qu'ils assurent le maintien. La Coupe de France est bonus. Et on verra bien, il faut qu'ils regardent match après match.
Merci les garçons pour cette fine analyse. En Ligue 2, Tristan, Rodez s'enfonce de plus en plus dangereusement au fond du classement.
Ouais, ce samedi, le RAF de Didier Santini s'est incliné sur le plus petit des scores contre Guingamp. Avec ce nouveau revers à domicile, le club aveyronnais enchaîne un troisième match sans victoire et stagne à la 17e place du classement. On rappelle d'ailleurs qu'avec le passage de 20 à 18 clubs en Ligue 1, les 4 derniers de 2e division seront directement rétrogradés en National. Donc s'il veut se sauver, Rodez doit mettre au moins la main sur cette 16e place qui est actuellement détenue par Dijon.
Et dimanche soir, on a eu le droit à un choc 100% occitan en top 14.
Le Stade toulousain, privé d'une grande partie de ses internationaux, accueillit en effet Montpellier Ernest Vallon en match de clôture de la 16e journée de top 14. Après une première mi-temps qui a été sans grande saveur, Ogaronnet et Héroté sont rentrés au vestiaire avec un score de 9-3 pour les visiteurs. Mais les Montpelliérains s'écroulent complètement en seconde période, handicapés par deux cartons jaunes qui sont obtenus coup sur coup à la 54e et à la 61e minute. Ils encaissent un lourd 20-0 et repartent donc d'Ernest Vallon bredouille. Les Toulousains, auteurs de 3 essais, prennent donc le large en tête du classement grâce à un bonus offensif qui est inespéré et qui a de quoi réjouir Clément Poitrenaud.
Ça me va plein quand tu reçois le champion de France quand même. T'as l'humilité de penser que si tu gagnes, c'est bien. Donc ouais, évidemment qu'on est hyper satisfait. Et comme tu l'as dit, les résultats des autres équipes nous sont favorables sur le week-end.
Toulouse envoie ainsi un message fort aux autres équipes du championnat. L'année dernière, les périodes des doublons étaient souvent synonymes de perte de vitesse hein, pour les rouges et noirs qui avaient tendance à reculer au classement. Cette saison, ils semblent mieux armés pour traverser la phase internationale avec succès.
Le week-end a été réussi pour tous les autres clubs de rugby occitan.
Oui, Perpignan qui signe l'exploit de ce week-end en s'imposant 31-24 contre le Stade français, qui est actuellement le deuxième du championnat. L'USAP a pourtant évolué à 14-15 durant les 12 dernières minutes de jeu, suite à l'expulsion de son ailier, Georges Tilsé. Cette victoire ne lui permet cependant pas de quitter la dernière place du top 14. De son côté, Castres est venu à bout de l'Union Bordeaux-Bègles. Les Tarnais se replacent ainsi à la 10e place du classement et peuvent donc toujours espérer une place dans le top 6.
Parlons maintenant volley avec les Spacers qui ont mis fin à leur spirale négative.
Face à Cambrai, la lanterne rouge de cette Liga, la victoire a été obligatoire pour les Toulousains. Et c'est chose faite, les Spacers ne sont pas tombés dans le piège cambrésien en l'emportant 3-7-1. Les hommes de Patrick Duflo récupèrent ainsi la 11e place et se donnent un petit peu d'air au classement.
Une spirale négative qui perdure cependant pour les filles du Toulouse Métropole Basket.
Avec ce revers 74-70 face aux Flammes Carolo Basket de Charleville-Mézières, le TMB enchaîne une 9e défaite consécutive. Si elles souhaitent se maintenir dans l'élite française, les joueuses toulousaines vont devoir réagir et retrouver le chemin du succès.
Merci Tristan, on va continuer à suivre tout ça de près.
Mesdames, messieurs, prosternez-vous.
C'est bien fait.
Extraordinaire. Extraordinaire, ma bien joué.
Les champions
de la ville. Vas-y, mon petit.
Mon objectif prochain, c'est de tout soulever.
Alors, Benjamin, tu vas nous parler d'un personnage qui a un nom qui résonne ici à Toulouse, mais qui est finalement très peu connu, Ernest Vallon.
Bonjour à tous. Oui, alors complètement, Margot. Bon, je pense que si vous êtes de Toulouse, ou même si vous venez de la Ville Rose, vous avez tous au moins entendu une fois le nom du personnage du jour. Il est décédé il y a 101 ans et je vais donc vous parler d'Ernest Vallon, de son vrai nom, Marie-Victor Ernest Vallon, qui a donné son nom à la fameuse enceinte du Stade toulousain.
Mais qui était-il vraiment, ce fameux Ernest ?
Alors ça, c'est la bonne question, parce qu'on n'a vraiment que très très peu d'informations à son sujet. Bon, je ne vais pas vous faire toute sa biographie, mais plutôt ce qui le rapproche du Stade toulousain, juste pour vous dire qu'il est né en 1851 et qu'il est décédé en 1921 à l'âge de 70 ans. Mais donc, on peut se demander ce qu'il a fait de sa vie pour qu'on ait donné son nom au stade. On pourrait penser qu'il est rentré dans le milieu du sport depuis son plus jeune âge, alors qu'il n'y arrive qu'à l'âge de 56 ans, en devenant, et c'est le pourquoi de toute ma chronique, le tout premier président du Stade toulousain.
Mais donc, qu'est-ce qu'il faisait avant ?
Bah, c'est ça qui est surprenant, il faisait complètement autre chose. Il a été professeur de droit et même doyen de la faculté de droit de Toulouse, donc à l'opposé complet du monde du rugby. On ne sait pas vraiment comment il est arrivé au rugby, il n'y a que très peu de sources à son propos. On n'a même aucune photo connue qui le représente. Bon, quoi qu'il arrive, il devient en 1907 le premier président du Stade toulousain et aussi son plus gros actionnaire. Et le club remporte son premier titre de champion de France sous sa présidence en 1912 et s'en suivront 20 autres.
Et donc le stade porte aujourd'hui son nom?
Oui, c'est ça. Au départ, le stade s'appelait juste le Vallon. Et c'est seulement à partir de 1982, avec la construction du stade actuel, qu'il a été renommé avec le nom complet Ernest Vallon. Et petit fun fact pour finir, Ernest Vallon est né la même année que Charles Brennus, celui qui donnera son nom au fameux bouclier de Brennus, soulevé par chaque vainqueur du top 14.
Merci beaucoup pour cet éclairage, Benjamin. Louis, tu as suivi le match France-Danemark hier soir ?
Oui Margot, un choc des titans, deux colosses du handball mondial s'affrontaient hier soir à la Tele 2 Arena à Stockholm. Les deux nations se partagent le Graal mondial depuis 2009. Sur ces 7 compétitions, 4 trophées décorent les armoires françaises, et 2 trophées, les deux derniers, sont partis en terre danoise. Et je vous parle même pas des Jeux Olympiques. Pékin, Londres, Rio, Tokyo, sur ces 4 éditions, les Bleus sont repartis 3 fois avec la médaille d'or. Les coéquipiers de Nicolas Karabatic se sont contentés d'une médaille d'argent au Brésil, face aux Danois.
Sans rappeler que c'était déjà cette même affiche pour la finale des derniers JO à Tokyo.
Tout à fait, ma chère Margot. Et aucune des deux équipes ne l'a oublié. Bref, tout était réuni pour vivre une grande rencontre.
Et cette grande rencontre, elle a tenu ses promesses ?
Les supporters scandinaves ont en tout cas passé un bien meilleur dimanche soir que nous. Dans une salle bondée de Suédois ayant rallié la cause nordique, l'équipe de France n'a pas arrêté de courir au score après une entame de match catastrophique. En témoigne le 6-2. Malgré un Mikkel Hansen très discret, auteur d'un petit but sur pénalty seulement, l'attaque danoise a perforé à 9 mètres la défense française, pourtant la meilleure de la compétition. On le savait, cette équipe du Danemark ne se résume plus seulement à sa star, loin de là. Les jeunes Mathias Gidsel et surtout Simon Pitlick, compilant une trentaine de sélections à eux deux seulement, se sont bien chargés de nous le rappeler en plantant respectivement 6 et 9 buts. Les réponses de Nedim Rimili avec 6 buts et Dikamem 5 buts ne seront pas suffisantes.
Mais y a-t-on cru à un moment quand même ?
Oui, enfin, on aurait pu y croire avec un écart inespéré de moins 1 à la pause. En seconde mi-temps, le pivot Nicolas Tournoi nous fait beaucoup de bien en attaque sans que l'équipe passe devant au score. Celui qu'on nomme le Poulpe, pour sa faculté à rattraper n'importe quelle passe, réalise une entrée spectaculaire. À l'image de son très beau Chabala, les Bleus reprennent des couleurs avant que Guillaume Gilles décide de se tirer une balle dans le pied en remettant sur le banc l'ancien pivot du H.
À quoi s'est joué ce match alors ?
Comme le souligne le capitaine Lucas Karabatic à la fin du match, des détails. En effet, on peut en citer quelques-uns. Un jeu trop près de la défense, offrant des pertes de balles ou au mieux des shoots compliqués à 6 mètres. Ludovic Fabregas, un des chefs de la défense, très vite sous la menace d'une exclusion après 2-2 minutes. Et finalement, un Vincent Gérard qui devrait songer à devenir égérie de Chaîne d'Argent, la marque de gruyère Lidl, le grand sponsor de la compétition. Le gardien français a attendu la 10e minute pour sa première parade lorsque le gardien adverse était déjà à 3 arrêts. Un bien mauvais calcul. Bon, les mots sont durs pour le portier de Saint-Raphaël, sans qui nous ne serions pas en finale probablement, mais sa prestation n'a pas été au niveau, loin de là.
Sacrée liste de détails.
En somme, on peut affirmer que les hommes de Nicolas Jakobsen nous ont surclassés. Une défaite 29 à 34, qu'on a dû très vite digérer devant Esprit Criminel dès le coup de sifflet final. Bon, David Rossi et son équipe auraient pu troquer cette fois-ci leur nouvelle enquête sanglante pour une vraie question. Qu'est-ce qu'il y avait dans la gourde de Vincent Gérard ? Après, c'est toujours très facile de critiquer depuis son canapé. Cette prestation ne doit pas faire oublier le beau parcours des hommes de Guillaume Gilles avant le rendez-vous Paris 2024.
Et c'est parti pour ce temps additionnel avec Emilien. Je crois savoir que le SCO d'Angers a fait des merveilles ce week-end.
Oui Margot, on a vu des Angevins toujours aussi fidèles à leurs habitudes avec une superbe défaite, 4-0. Il faut dire qu'ils affrontaient l'ogre brestois en cette 20e journée. Résultat, une 12e défaite d'affilée pour les Angevins. On n'avait plus vu une série aussi longue depuis les Feux de l'Amour. Et d'ailleurs, la comparaison est belle. Des épisodes soporifiques avec des hauts et des bas. Enfin pour Angers, c'est surtout des bas. Et c'est surtout la Ligue 2. Au moins, ils pourront tenir compagnie aux Stéphanois, qui ont eux aussi fait honneur à leurs valeurs ce week-end.
Et les valeurs sont aussi très belles chez nos dirigeants sportifs français.
Et oui, on le sait, le sport, c'est le respect, l'humilité, la détermination, la fraternité, la passion. Au handball, on le sait, le plus important, c'est la passion. et même la passion amoureuse. Après les exploits des dirigeants du foot, c'est au tour de Bruno Martini de la Ligue Nationale de Handball d'être condamné pour corruption de mineurs. En même temps, Bruno, il adore le RC Lens, donc des mineurs, il en voit tous les jours. Et à force, on finit par tous les confondre. 13 ans, 15 ans, 25 ans, ça fait plus de différence pour lui. Je trouve vraiment que la justice est dure parfois.
Après le handball, ce sont les déboires judiciaires de l'Ovalie qui ont fait parler dans les journaux.
On a appris la démission du patron de la FFR, notre cher Bernard Laporte, dans la presse. Alors là, je suis tombé des nues. Bernard aurait détourné de l'argent ? Mais qui imagine le général de Gaulle mis en examen, nous disait notre Fillon national avant d'être condamné. Eh bien Bernard nous avait lâché un « Moi, je suis certain d'être innocent ». Alors forcément, quand un ancien membre du gouvernement Sarkozy dit quelque chose, on a tendance à le croire. Et c'est pour ça que moi, je n'en reviens pas de cette condamnation. En tout cas, ce brave Bernard continue d'étoffer sa batterie de casseroles, et à ce rythme-là, il va pouvoir ouvrir son restaurant avant le début de la Coupe du Monde.
J'ai cru comprendre que tu avais aussi été déçu du résultat de nos Bleus en finale de championnat du monde de handball.
Et oui, après Bernard, c'est Gérard qui a fait honneur à la France hier soir contre le Danemark. Il faudra peut-être que les deux s'échangent leurs numéros d'ailleurs avant l'ouverture du resto de Bernard. Une passoire, c'est toujours utile en cuisine. Non mais pour rester sérieux, Vincent, il a fait très fort. 4 arrêts pour 25 tirs. On est à 16% d'arrêts. Bien entendu, ce chiffre dépend du point de vue. 16% d'arrêts de travail, ça lui ferait frétiller la moustache à notre Philippe Martinez. C'est sûr que si Vincent avait été CRS, il aurait été le meilleur ami de la CGT. Parce qu'avec lui, c'est open bar. Le Manu, il serait pas serein derrière son portail de l'Elysée demain. Heureusement pour nos forces de l'ordre, Vincent sera déjà occupé à compter les buts qu'il a encaissés pendant ce mondial.
Et enfin, on va finir sur une note plus légère. Je crois que les pigeons étaient de sortie ce week-end.
Absolument, Margot. Et je vais vous poser une question sur ces volatiles. Est-ce que vous savez pourquoi les pigeons volent sur le dos en France ? Eh bien, c'est tout simplement pour ne pas voir la misère de la Ligue 1. Et on peut les comprendre. Le problème, c'est que cette pratique est risquée. On en a justement vu un se cracher durant Nice-Lille. Et c'est loin d'être le premier à s'écraser à Nice. Le pauvre Jim Ratcliffe, il se fait dépouiller depuis plus de 3 ans. Et on n'en a pas autant parlé que pour l'histoire de ce pigeon. Alors pour finir, j'aimerais que l'on ait une pensée pour tous les pigeons de France et de Navarre qui font vivre notre belle Ligue 1 à défaut de faire fleurir leur porte-monnaie. Merci pour eux.
C'est parti pour le quiz. Est-ce que vous pouvez me donner les 5 joueurs avec le plus de temps de jeu des Cavaliers de Cleveland pendant les finales 2015 ?
Ah, déjà, tu dois avoir LeBron James, je pense.
Oui, très bien, Corentin.
Tout à fait, il y a le GOAT. Moi, j'ajouterais Kyrie Irving.
Oui.
Non. Il n'y a pas Kyrie Irving 2015 ?
Non. Par contre, tu dois avoir... qui c'est qui l'a remplacé ? Tu dois avoir Matthew Dellavedova à l'époque.
Exactement.
Tristan Thompson.
Oui.
Kevin Love.
Non plus.
Putain, mais il est en 2015, vas-y, mais je sais pas.
Bah alors, il y a... Alors, dans Tristan Thompson, tu dois avoir... Iman Shumpert.
Et le dernier...
J.R. Smith.
Bien vu. Bravo, Corentin. On passe à la question suivante. C'est un qui suis-je ? Je quitte mon pays natal en 2014 pour rejoindre l'équipe de Fulham. Je rejoins le Benfica en 2015 et j'inscris 52 buts en 2 saisons là-bas. Je rejoins la Ligue 1 suite à ce passage réussi pour 15 millions en 2017. Je suis buteur.
Mitroglou.
Oh, il est fort.
Très bien, bravo. Même pas à la fin de la question. Félicitations, Incroyable. Louis. Deuxième qui est-ce ? Je suis né au Havre en 1983, mais je ne serai pas retenu dans les équipes du HAC. En 2006, je suis appelé par Raymond Domenech. Je suis le premier joueur à porter le numéro 10 après Zinedine Zidane et je marque. Polyvalent, je peux jouer au milieu de terrain ou sur tous les postes sur le flanc droit. Je signe en 2004 dans l'illustre club des Girondins de Bordeaux.
C'est notre cher Gourcuff.
Non. Je pars ensuite pour West Ham en 2007 pour 9 millions d'euros.
Julien Faubert.
Exactement, Corentin. Très fort ce soir, Corentin.
Ah, je sais, bravo. Pas mal, là. J'ai révisé.
Bête. Merci à toute l'équipe, Hugo, Corentin, Tristan, Benjamin, Louis, Émilien et Anatole à la régie. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode, période de récupération pour l'effectif. Promis, on revient en pleine forme lundi fin février. À bientôt.